Vous écoutez
RMC. RMC jusqu'à midi.
Eh hey Doc, reculez un peu, la route est trop courte pour atteindre 88 miles à l'heure.
La route, là où on va, on n'a pas besoin de route.
Les grandes gueules du sport en direct du salon Rétromobile.
Jean-Christophe Drouet.
11h06 de retour dans les grandes gueules du sport sur RMC. Toujours, oui, vous l'avez entendu de la part de la grosse voix, toujours en direct du salon Rétromobile, porte de Versailles à Paris, le salon des voitures de collection. Nous sommes au pavillon de stand RMC Découverte. Venez voir, déjà beaucoup de monde, hein, pour admirer les GG, pour admirer les belles voitures, mais aussi pour admirer vos trombines. Mes GG, qu'est-ce qu'il y a, Christophe? Ça va, Christophe? T'es en train de finir ton petit déjeuner, là?
Ouais, ouais, c'est l'heure.
Ouais. Oui, mais à 10h, c'était encore l'heure, et à 9h, c'est encore l'heure.
Et midi sera l'heure de bientôt déjeuner.
C'est fou, quand même. Hein. Fred Weiss, Marc Madio et Julien Beneteau, très heureux, évidemment, d'être avec vous. Mais GG, sachez qu'on a déjà évoqué beaucoup de sujets. On a parlé à 9h de cette Angleterre-France. On va en parler dans quelques instants, de Paris Saint-Germain-Monaco, du trade entre Doncic et Davis, de la Coupe de France. Bref, n'hésitez pas à aller nous réécouter en podcast. Merci infiniment de votre fidélité. Je le disais dans quelques instants, Mathieu Jalibert, l'homme du crunch, le génie bordelais, peut-il vraiment se faire une place dans cette équipe? 11h30, le dossier des GG, scène de chaos sur l'étoile de Bessèges, cette course cycliste disputée dans le sud de la France, dans le Gard. 7 équipes ont décidé de quitter la course en pleine étape après l'arrivée d'une voiture à contresens, ça c'était jeudi, et encore une voiture le vendredi, trop c'est trop pour les coureurs qui ont préféré quitter la route. Évidemment, on a envie de t'entendre sur ce sujet, notamment Marc Madio. Donc voilà, encore beaucoup de débats dans cette émission, et on va débuter cette nouvelle heure avec cette citation de Claire Martin qui a dit un jour, cela peut prendre parfois beaucoup d'hommes pour en remplacer un seul.
RMC. Les grandes gueules du sport passent la seconde.
Mathieu Jalibert, 25 ans, rugbyman professionnel à l'Union Bordeaux-Bègles.
Bonjour Mathieu.
Comment vous imposer et faire votre place?
C'est vrai que mon rêve d'enfant, c'était forcément aussi gagner des titres.
Arrêtez de se justifier, expliquez les choses normalement, calmement.
C'est quoi les qualités du joueur de rugby français?
Beaucoup d'amour et de gentillesse, des choses un peu exclusives.
Parce que vous comptez, votre avis compte, votre vie compte, et il faut vous donner de l'importance.
Nous, on a besoin de joueurs déterminés, habités par une seule chose, c'est être convaincu d'être à sa place.
Bien, parfois, on a un peu plus de mal à prendre notre place et à se sentir légitime.
Moi, je prends des tapes sur la tête 200 fois par saison.
Les autres vont pouvoir facilement vous balayer d'un revers de la main.
Bombe le torse, relève le menton. D'accord,
hein? Le torse plutôt bombé, un regard plutôt élevé.
Ce qui est le patron?
Et moi.
Voilà, j'espère vraiment que ces conseils pourront vous aider à créer votre place et montrer aux autres que vous comptez. Aussi.
Ce garçon m'étonne. Régulièrement, on le croit fini, on le croit aux portes de la retraite. Et tel le phénix, il ressort de sa boîte.
Fais-moi une place dans ton
Et oui, tel le phénix, il ressort de sa boîte.
Tu traînes trop avec Denis Charvet.
Tel le phénix,
des expressions.
Tel le phénix, il ressort de sa boîte de Pandore.
Ouais, bien évidemment.
Il faut le savoir.
Bravo.
Alors, c'est l'heure de sa revanche.
Plus dire une connerie, elle est enregistrée et ressortie 50 fois par an.
C'est fou, hein.
Il y a 15 ans, il y a 15 matins qui arrivaient encore, Chris. Mais là, maintenant, t'es rattrapé par.
Allez, finis ton petit-déj. C'est l'heure de sa revanche. 3 mois après avoir quitté le 15 de France en plein rassemblement, car il ne voulait pas jouer les faire-valoir, Mathieu Jalibert est de retour sur le devant de la scène, titulaire au poste de numéro 10 à Twickenham pour remplacer Romain Ntamack, suspendu après son carton rouge. Étincelant, hein, vous le savez, on le répète à longueur de semaine avec l'UBB, Mathieu Jalibert a une chance quasi unique de prouver son talent en bleu dans l'un des matchs les plus importants de l'année. La musique qui fout les jetons. Et cette question, Mathieu Jalibert, peut-il vraiment se faire une place dans cette équipe? Oui ou non? Fred Weiss?
Oui.
Christophe Cessieux?
Non.
Marc Madio?
Plutôt non.
Julien Beneteau?
En tant que titulaire, non.
Avant de débattre, on va retrouver notre envoyé spécial à Londres, c'est Pierre Thévenet. Salut Pierre.
Bonjour tout le monde.
C'est vrai Pierre que ce match ressemble un peu à un match de la dernière chance pour Jalibert?
Oui, son retour quelques semaines après son départ de Marcoussi n'a rien d'anormal pour son sélectionneur Fabien Galthié. Il faut le dire, il n'a jamais rompu le contact avec son joueur.
Il était très important pour nous de rester en contact avec son club, avec son environnement. Et puis c'est au joueur ensuite de ne pas se perdre. C'est aussi au joueur de définir un chemin, des priorités, une méthode et de la suivre ou pas pour être le meilleur possible. Et j'ai toujours dit que Mathieu était pour nous un joueur qui était sélectionnable.
Voilà, Mathieu, toujours sélectionnable et qui a eu aussi le mérite de rester très performant avec l'UBB, de revenir, d'accepter de revenir dans un rôle de second couteau à la fin du mois de janvier à Marcoussi. Il doit maintenant performer dans les souliers de Romain Tamac, aux côtés d'un Antoine Dupont omniprésent dans le jeu. Le capitaine des Bleus s'accommode du retour du Bordelais, mais le jeu de l'équipe de France n'évoluera pas pour satisfaire les qualités d'attaquant de Mathieu Jalibert.
La stratégie elle va pas changer. Quand on n'adapte pas la stratégie en fonction des joueurs, Mathieu connaît très bien le système. Il l'a expérimenté de nombreuses reprises ces dernières années. Donc on a une totale confiance en lui.
Mais Pierre, Mathieu Jalibert sait très bien qu'il n'est pas le choix numéro un du sélectionneur.
Oui, puisqu'il aura fallu la suspension de Tamac et les blessures des deux arrières, Barré et Burros, pour finalement lui faire une place. Et même s'il est très bon cet après-midi à Twickenham, rien ne lui garantit derrière de rejouer dans le tournoi. Une situation peu confortable selon l'ancien sélectionneur Pierre Berbizier.
J'aurais préféré que le contexte soit différent, qu'on accueille Mathieu Jalibert plus par choix que par nécessité. Si on le met dans des conditions d'intérim, c'est pas non plus un certain confort.
Autre avis pour l'ancien ouvreur du 15 de France, Yann Delegue, qui voit lui une opportunité pour le Bordelais.
Chacun a son idée en tête par rapport à ça, mais je pense qu'il faut qu'il s'enlève tous ces petits parasites qui peuvent lui polluer l'esprit pour ce qu'il se concentre sur ce match véritablement. C'est une opportunité, comme je disais tout à l'heure, il faut qu'il la saisisse cette chance-là.
La 35e sélection de Mathieu Jalibert aura une forme de dernière chance, mais s'il brille et que les Bleus l'emportent, pourquoi pas venir bousculer la hiérarchie.
Merci beaucoup Pierre Thévenet en direct de Londres. Tu restes avec nous pour ce débat. Ce match est à 17h45, prise d'antenne dès 17h en direct de Twickenham avec Pierre Thévenet, Wilfried Templier, Denis Charvet, Christophe Cessieux évidemment pour l'animation. Mathieu Jalibert, peut-il vraiment se faire une place dans cette équipe? C'est notre débat, le 32-16, le hashtag RMC Live, l'application RMC Direct Studio. Christophe, je commence par toi. Toi qui l'as toujours défendu, tu me dis non, je suis assez surpris.
Oui, j'en suis bien triste d'ailleurs, mais je ne pense pas qu'en un match, parce qu'il n'aura qu'un match pour le faire, il puisse renverser la table et rentrer dans la tête de Galtier au point que celui-ci décide de destituer en quelque sorte Ntamack et le mettre derrière Jalibert. Il faudrait des circonstances exceptionnelles. Je veux dire, il faudrait déjà que Dupont fasse jouer son 10, ce qui serait déjà pas mal. Ensuite, que celui-ci marque 2-3 essais, qu'il en fasse marquer 2-3 autres aux ailiers, qu'il défende comme un mort de faim. Bref, qu'il réalise le match parfait et qu'il devienne ainsi indispensable. Mais t'es face à l'Angleterre, t'es pas face au Pédial. C'est un vrai gros match. Hein, c'est un match référence parce que c'est une référence d'aller gagner en Angleterre, quoi qu'en disent certains. Et je pense.
Une référence, c'est pas un exploit, on est d'accord, c'est pas le même mot.
Référence.
Ça, c'était le débat de 9h. Allez, on fait des débats de 9h.
Donc moi j'ai un peu de mal à y croire parce que dans la tête de Galtier c'est bien installé, voilà. et tout tourne autour de son numéro 9. Son numéro 9 c'est son capitaine, c'est son maître à jouer, c'est Dupont.
Mais quand on dit
jouer avec Ntamack et Ntamack défend mieux que Jalibert, donc je vois pas comment il pourrait renverser la table.
Mais quand on dit se faire une place, c'est pas forcément titulaire, mais être quelqu'un qui compte dans cette équipe.
Il peut pas être finisher avec un banc en 6-2, il peut pas être finisher.
Donc même dans les 23, il y est
non,
pas quoi.
Ben ça a été le cas la semaine dernière. Il était pas dans les 23. Il est rentré à la maison en milieu de semaine. Ils avaient une liste de 42.
Il y a pas de 10
à 23.
Jalibert, il est victime de sa non polyvalence. Il peut jouer que 10. Il peut peut-être jouer un peu à l'arrière, mais à l'arrière il y a d'autres joueurs. Donc du coup sur le banc en 6-2 comme dit Christophe, il met pas d'ouvreur Galtier. Il met un demi de mêlée sur les lignes arrière et un autre arrière qui est un centre qui peut être polyvalent,
c'est-à-dire que
glisser à l'aile et un ailier peut glisser à l'arrière.
Voilà, il peut faire rentrer.
C'est Ramos qui remplace le numéro 10 en cours de match s'il y a besoin. Donc Jalibert dans l'équipe, s'il est soit titulaire, soit en tribune.
Exactement.
C'est très dur.
Non, mais c'est ce que vous me dites, c'est que en fait peu importe ce qui va se passer là cet après-midi.
C'est ce que je t'ai dit moi.
C'est le
même Christophe, même l'argument de Christophe. Et c'est pas contre Jalibert ou quoi que ce soit, c'est la logique de Fabien Galtier. Et moi je souscris à cette logique. C'est qu'il a une charnière type. Il a été victime de ça quand il a été joueur. Ils lui ont donné raison depuis le début. Ntamack, Dupont, c'est hyper solide. Il a Ramos qui a comblé le trou au mois de novembre. Jalibert, il peut faire le match parfait aujourd'hui en Angleterre. On peut mettre 30 points aux Anglais et gagner. Ntamack sera titulaire contre l'Italie.
Et c'est exactement cette partie-là que j'achète pas. Je comprends et je suis plutôt d'accord avec eux, malheureusement, mais j'achète pas. T'appelles un pompier, t'appelles un mec qui devait plus être là, et finalement, s'il fait un grand match, ça sert à rien. C'est quoi les valeurs
par rapport à ça?
Tu peux pas, c'est-à-dire que tu peux pas faire évoluer une hiérarchie. Tu fais ce qu'on te demande. t'es parfait. Bah, tu fais le match parfait. Tu étais parti pourtant dans un contexte un peu compliqué. Tu pensais ne plus jouer. T'es rappelé, t'es là. T'es le pompier absolu si tu fais un grand match. Et malgré ça, tu peux pas gagner. Donc concrètement, je suis d'accord
ça,
avec
ça. Dans une logique sportive, t'as du mal à l'entendre.
Dans une logique sportive, moi, je j'arrive pas à l'entendre. Et encore une fois, je suis d'accord avec ce qu'ils viennent de dire.
Ok, Marc.
Et quand on écoute les propos de Galtier, on sent quand même qu'il n'insulte pas l'avenir. On ne sait jamais ce qui peut se produire ou se passer avec.
Non, il y a eu un. T'as raison. Il y a eu un vrai changement de discours de Galtier vis-à-vis de Jalibert quand même. Parce que les mecs se sont parlé.
Sur le papier aujourd'hui, c'est non.
Mais le petit mail existe. Les circonstances.
Voilà.
Donc c'est pour ça que. Parce que Ntamack est un garçon fragile, il s'est blessé gravement à deux reprises. Parce que Ntamack n'a pas retrouvé tout à fait le niveau qui était le sien avant sa grave blessure, avant la Coupe du Monde. Donc il y a aussi peut-être ça. Si Jalibert réalise un match extraordinaire et que Ntamack revient la semaine prochaine face à l'Italie et qu'il est un peu moyen.
Dans deux semaines.
Il y a quand même.
Il lui montre un peu sa confiance parce qu'il ne faut pas oublier, au mois de novembre. Jalibert n'accepte pas
d'être en tribune.
Il n'accepte pas son statut actuel de en équipe de France. Donc il rentre, donc il sort de l'équipe pour le reste de la tournée. Quand on connaît le fonctionnement de Galtier avec son fameux cadre, que des joueurs doivent être là, répondre présent, on a besoin de. Et lui, il dit je ne m'attarde pas avec ceux qui sont contre nous, je n'ai pas d'énergie à perdre avec ceux qui sont contre nous. C'est son truc. Moi, il me l'a dit en privé, etc. C'est son truc. Je lui ai demandé comment il faisait pour gérer 40 joueurs, etc. Ni j'ai pas le temps, j'ai pas l'énergie pour m'attarder avec ceux qui sont contre nous.
Et
ceux
pourtant, il a pris le temps, donc, avec Mathieu, c'est ce que tu veux nous dire.
Et là, il le rappelle.
Ouais, mais c'est pas un symbole. Justement, c'est pas un symbole.
Il est revenu dans le groupe.
Qui peut changer un petit peu sa façon de faire les choses.
Non, parce que je pense qu'il lui a fait comprendre les choses et que Jalibert a dû comprendre aussi certaines choses. On dit voilà, aujourd'hui, c'est ça. Peut-être que ça peut évoluer, mais pas en tant que titulaire. Parce que Ntamack, Dupont, il est devant, et Ramos, il est devant.
Ouais, mais il y a plein de blessures, encore une fois. Il y a des
C'est pour ça qu'il a dû lui tenir ce discours-là en disant écoute, Mathieu, si tu veux aller à la Coupe du Monde en Australie, tu sais très bien comment ça se passe. Le vie d'un rugbyman, c'est pas un long fleuve tranquille. Il l'a vu à la dernière Coupe du Monde, il n'était pas censé être titulaire. Ntamack s'est blessé en préparation, c'est Jalibert qui a joué en 10 en tant que titulaire. Et je pense qu'ils ont mis les choses à plat, que Jalibert a dû accepter de dire ok, dans un premier temps, je suis dans les 42. Le banc en 6-2 joue en Madai Faveur. Bon, bah, je fais le dos rond, j'attends. Alors, et puis là, il a une opportunité, il va répondre présent, il va faire un bon match.
Moi, je pense qu'il va faire un très bon match.
J'espère, et je pense, il faut pas qu'il se mette dans l'état d'esprit, justement, comme tu dis, c'est ma dernière chance. Non,
il faut éviter ça.
Et je pense que Galtier, Servat, Ibanez,
ils lui ont rabâché toute la semaine.
Mais évidemment.
Alors, moi,
j'aimerais
bien comprendre quelque chose.
Parce que ça, pour le coup, quand il embarque quelqu'un, Galtier, il les embarque vraiment.
On a la chance dans cette émission d'avoir évidemment des anciens sportifs de haut niveau. Et j'ai envie que vous essayiez de transposer ça dans votre discipline. Alors toi, Fred, le basket, Julien, le tennis, Marc, le vélo. Julien, par exemple, en Coupe Davis, ça t'est arrivé de jouer les remplaçants, de devoir être bon sur un match. Mais tu le sais que même si tu es bon, la hiérarchie n'est pas changée. Comment Mathieu Jalibert peut être bon cet après-midi à Twickenham, sachant ça?
Alors là, je vais rejoindre Marc. C'est l'amour du maillot.
Ah, tu me fais plaisir.
Non, je vais te donner mon exemple. Pas un exemple qui a été. Un autre qui a été en ma faveur, mais qui a été difficile à gérer. En 2014, on joue la finale à la Coupe du Monde contre les Suisses. Donc là, à l'époque, c'est deux simples vendredis, le double samedi, deux simples dimanches. Le vendredi soir, Arnaud Clément qui est capitaine, et c'était prévu dans la préparation, mais il me l'annonce officiellement, il me dit voilà, je reste sur mon idée première, je fais jouer Joe, Wilfried Tsonga et Richard Gasquet en double demain. Je sais, t'as fait tous les efforts, tu joues bien en double, t'as gagné Roland cette année, c'est sur terre battue, il y a plein d'ailleurs d'arguments pour que je... t'as gagné une médaille de bronze avec Richard, enfin tu vois, l'association elle était possible, etc. J'imagine que t'es déçu, je suis désolé mon Bennett, t'as tout donné pour l'équipe, voilà, c'est comme ça. Ok. Le matin, Joe est blessé à l'échauffement. Arnaud m'appelle à 11h, 11h30, et le match était à 14h30, 15h, il me dit,
là, tu me dis pas de faire
c'est pour toi. Joe est blessé, viens, c'est pour toi. Je suis à l'hôtel à ce moment-là. Je débarque avec Gaël, mon fils. Pas une seule fois, je me dis, je suis revanchard, je vais lui prouver, c'est ma dernière chance, je peux gagner ma place pour les années à venir.
Et rentrer dans le match.
C'est ouais, mais t'as quand même envie de montrer les choses. Alors je te rejoins pas.
Non, parce que moi, c'était le truc, c'était, ok, c'est comme ça. Bon, maintenant, il faut qu'avec Richard, on ait un plan de jeu, une tactique. comment on va
mais t'as pas envie d'être bon gagner. Particulièrement justement parce qu'on te laisse cette chance, t'as envie
de te montrer. Autrement, c'est le meilleur moyen de se crisper, c'est le meilleur moyen.
Je suis d'accord, mais là tu me parles d'une finale. C'est-à-dire que si ça avait été le quart de finale et que tu savais peut-être que tu jouais ta place pour la demi et la finale, que t'avais pas le droit de te rater.
Alors je te redonne un autre exemple. En 2018, je prends ma retraite à l'US Open. Il y a une demi-finale 15 jours après. Pierre-Hugues Herbert se blesse. Noah m'appelle, il me dit t'es toujours là à la retraite. Je fais non, ça fait deux jours que j'ai arrêté, donc je suis encore en forme. Bon bah Pierre-Hugues est blessé, viens dans l'équipe. Ok, j'y vais. Je fais le meilleur double de ma vie.
Ouais,
avec
mais ça,
Nicolas
c'est un contexte
May.
Différent, c'est un retrait. C'est un contexte complètement différent.
Écoute, je fais le meilleur double de ma vie avec Nico Mahut.
Parce que l'idée est sans pression.
On se qualifie pour la finale. J'étais censé être à la retraite. Je me dis, bon, bah, je vais continuer un mois et demi à m'entraîner, à faire un ou deux tournois pour être éligible pour la finale. Et il me prend pas pour la finale. C'est comme ça. Il remet Herbert en 2018, il remet Herbert Mahut.
Il t'a été lui mettre une grande claque.
Non,
non, même pas.
Mais il m'appelle, il a besoin de moi. C'est l'équipe de France. Dans mon éducation, j'y vais.
Donc Mathieu Jalibert a toutes les chances de performer, c'est-à-dire qu'il sera
bien
pas
sûr.
Parasité.
Non, j'y pars pas.
Madio.
Sauf que là, il y a eu une grosse campagne de presse et aujourd'hui, tout le monde lui a posé. Alors, il a été épargné, c'est-à-dire qu'il n'est pas allé en conférence de presse cette semaine, mais tout le monde rabâche à longueur d'émission, à longueur de colonne, qu'il joue sa chance. Même Philippe Saint-André l'a dit sur notre antenne. C'est le match de sa vie, il peut pas se rater. Même s'il lit pas directement les journaux, on lui rapporte quand même des choses.
Ok, il y a Edouard qui nous appelle au 32-16. Il veut participer à notre débat. Salut Edouard.
Oui, bonjour messieurs.
Bon, Mathieu Jalibert, peut-il vraiment se faire une place dans cette équipe?
Alors, ma position, c'est de dire que la hiérarchie, elle n'est pas aussi figée qu'elle en a l'air. Autant, évidemment, au poste numéro 9, il n'y a pas du tout. Il y a un leader charismatique, capitaine. Au poste de numéro 10, c'est moins marqué. Les performances de Romain Tamac depuis son retour de blessure sont quand même un ton en dessous de celles qu'elles étaient auparavant. Donc c'est un ouvreur qui est très propre. Mais là, c'est la chance de Mathieu Jalibert. Et je pense qu'il peut la saisir. Et Fabien Galthié avait parlé de son parcours, ses allées et venues avec l'équipe de France. Et je pense qu'il y a un parallèle avec la situation de Jalibert. Donc je pense qu'il joue gros aujourd'hui. Moi étant assez à l'écoute des arguments de Fred, je pense que c'est le match parfait pour se relancer, parce que oui, c'est un match à Twickenham, ce serait effectivement une victoire de prestige, mais aujourd'hui ce serait pas un exploit, parce que l'équipe de France est intrinsèquement supérieure à l'Angleterre. Donc je pense qu'il n'y a pas mieux pour se relancer. Derrière l'Italie, Ntamack sera toujours suspendu, il peut enchaîner, et ensuite il y aura un choix à faire, mais voilà, en sachant juste pour conclure qu'un groupe ça se gagne une Coupe du Monde à 33, enfin Mathieu Jalibert, il n'est pas censé être titulaire en 2023, Ntamack se blesse, et finalement c'est lui. Donc je pense que lui, l'enjeu, c'est de rester le numéro 2 très clair dans la tête de Fabien Galthié et d'aller challenger Ntamack, ce qu'il est capable de faire. Voilà.
Ok, rester le numéro 2, c'était très clair. Edouard qui a aussi participé au débat de 9h, ça tombe bien, parce que notre auditeur de 9h voulait participer au débat de 11h,
comme quoi
on peut tout croiser, et lui ne parle pas d'exploit.
Et je voudrais juste rajouter quelque chose. Je pense que même dans l'autre sens, imaginons que Jalibert fasse pas un grand match, ben ça le condamne pas du tout pour son avenir en équipe de France.
Ben là, je suis pas d'accord.
Il sera pas titulaire, mais pour être le numéro 2 dans la hiérarchie,
il sera toujours dans les 42. Il va pas rappeler à Stoy, je sais pas.
Et quand Bureau et Barré vont être là, tu penses que ça va être tranquille pour lui?
Barré, ils reviennent mais à l'arrière.
Oui, mais je suis d'accord.
Mais donc Thomas Ramos passerait.
Ramos est toujours numéro 2. Si Jalibert joue aujourd'hui, c'est parce que Bureau et Rabé sont pas disponibles à l'arrière. Donc la hiérarchie est claire, et je pense que Galthié, il lui a dit à Jalibert, voilà la hiérarchie, et qu'il l'a accepté et qu'il y va.
Ok, il y a Pierre Thévenet qui veut réagir en direct de Londres. Pierre.
Oui, simplement sur ce que vient de dire Edouard, l'auditeur Mathieu Romain Tamac ne sera pas là, sera là contre l'Italie par contre. Sa suspension sera terminée, donc Mathieu Jalibert ne pourra pas. Enfin, si Ntamack est là, Mathieu Jalibert n'enchaînera peut-être pas. En tout cas, il sera en concurrence avec Romain Tamac. Sa suspension ne sera que de 15 jours, donc ce week-end et la semaine prochaine où il y a un match du Stade Toulousain. Donc Romain Tamac sera là contre l'Italie. Ce qu'il faut rappeler aussi pour Mathieu Jalibert, c'est qu'au-delà, il y a une place dans les 23. Il y a une place pour la Coupe du Monde aussi à aller chercher en 2027 dans le groupe qui partira en Australie. Et une fois qu'il sera en Australie, il pourra essayer d'aller gratter la place pour jouer des matchs. Mais rester dans le visu de Galthié, rester dans ce groupe de joueurs sélectionnables, je pense que c'est aussi très important pour lui en vue de cette Coupe du Monde 2027.
Merci beaucoup Pierre Thévenet d'avoir été avec nous. On te retrouve tout au long de la journée sur RMC en direct de Londres. Ce match à Twickenham, Angleterre-France, on a envie de mordre à pleines dents dedans. Ce sera à partir de 17h, prise d'antenne sur RMC avec aux manettes évidemment Christophe Cessieux et aux commentaires Wilfried Templier, Denis Charvet à partir de 17h, coup d'envoi 17h45. Et demain, nous débrieferons évidemment ce crunch entre l'Angleterre et la France. On se retrouve dans quelques instants. Merci Edouard d'avoir composé le 32-16. Dans quelques instants pour la suite des grandes gueules du sport et nous attendons évidemment Marc Madio. On a envie d'en savoir plus sur ce chaos à l'étoile de Bessèges, cette course autour du Gard. Il s'est passé beaucoup de choses en fin de semaine, on va tout vous raconter. À tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à midi,
les grandes gueules du sport en direct du salon Rétromobile. RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
De retour sur RMC en direct du salon Rétromobile, porte de Versailles à Paris, le salon des voitures de collection. Nous sommes au pavillon 2, au stand RMC Découverte, si vous voulez venir nous voir, évidemment, admirer les grandes gueules du sport. On vous accueille avec plaisir, toujours avec Christophe Cessieux, Fred Weiss, Julien Beneteau et Marc Madio. Sachez qu'à partir de midi, nous parlerons football avec les paris RMC, mais également du crunch entre l'Angleterre et la France. Nous serons de nouveau en direct de Londres avec tous nos experts. Un point sur le direct en cours. On va retrouver à Salbar en Autriche Léna Marjac et Sébastien Amier dit Bastoun pour la descente d'âme. Bonjour à tous les deux.
Salut JC, salut à tous.
Salut JC, bonjour à tous.
Que faut-il attendre Léna de cette descente?
Eh bien, on aura trois Françaises déjà au départ. On aura Laura Gauchet dans quelques instants avec son dossard numéro 4, Romane Miradoli, dossard numéro 26 et Karen Clément, dossard 29. Bastoun, ce qu'on va attendre de ces Françaises aujourd'hui, c'est clairement pas la victoire. Le podium sera également compliqué au vu des résultats depuis le début de la saison de notre équipe de France féminine de vitesse.
Ouais, en tout cas, on est sur la course d'un jour, les championnats du monde. Voilà, c'est particulier. Elles ont une revanche à prendre par rapport à leur Super G. Voilà, essayer de sortir aussi avec les honneurs, sortir une belle course. Et après, tout est possible, on le sait. Hein, Laura a le ski pour faire, il lui manque pas grand chose. Romane est un peu plus dans le dur. Elle s'est en plus fait un petit peu mal au genou lors du dernier entraînement. Maintenant, voilà, ça va être encore une fois, comme je le dis, la course d'un jour avec les favorites qui sont attendues. Mais en tout cas, c'est une belle journée ici à Salbar pour être championne du monde aujourd'hui. La piste est magnifique et le temps est splendide.
Effectivement, grand soleil ici à Salbar en Autriche. Et donc, on va suivre cette première Française, Laura Gauchet de Nossard numéro 4. Ce sera dans quelques petites minutes.
Voilà, tout à l'heure, Léna et Bastoun, tout de suite du cyclisme.
Les équipes étrangères, dans leur grande majorité, n'ont pas voulu repartir donc après cette neutralisation au kilomètre 22 de la course.
La voiture a bien été arrêtée avant le passage des échappés, mais c'est ensuite inséré entre les échappés et le peloton dans le sens de marche de la course. Donc pas face au peloton cette fois-ci, mais dans le sens de la marche. Le peloton a évidemment protesté après ça, et il y a eu de longues discussions. On a donc compris qu'il y aurait des coureurs qui ne repartiraient pas.
Paul Magnier, qui appartient à l'équipe Soudal Quick-Step, sur injonction de sa direction, n'est pas reparti.
RMC, le dossier des GG.
C'était hier sur la chaîne L'Équipe. C'est une situation quasiment inédite dans l'histoire du cyclisme, l'histoire d'un chaos sur les routes du Gard. Hier donc, sept équipes ont décidé de quitter sur le champ l'étoile de Bessèges durant la troisième étape. La raison des failles dans la sécurité. Jeudi, une voiture s'est présentée à contresens du peloton, provoquant une chute et un abandon. Et hier, de nouveau, une voiture s'est introduite dans la bulle course. On va retrouver notre journaliste RMC Sport, Julien Richard. Salut Julien.
Salut les grandes gueules du sport.
Et donc trop, c'est trop devant ce nouvel incident. Les plus grosses équipes du World Tour ont tout simplement décidé de s'en aller.
Je n'accepte pas de mettre ma vie en danger. Les mots de Julien Bernard, le coureur de la Lidl Trek, qui raconte à nos confrères du Parisien la frayeur vécue hier après seulement 11 km parcourus. Une voiture donc qui s'engage sur un rond-point juste devant le peloton. Incident de trop après la voiture en contresens la veille. Après un gros moment de flottement, de discussion avec les commissaires de course, sept équipes sont donc retournées dans leur bus, comme la Soudal Quick-Step, par exemple, donc du leader hier matin au départ Paul Magnier. Le français. 141 coureurs au départ, 78 sur la ligne d'arrivée, dont Florian Sénéchal, le coureur de Arkea B&B Hotel, au micro de la chaîne L'Équipe.
On peut pas le nier que niveau sécurité, il y a un gros boulot à faire parce qu'encore sur le circuit, quand la course s'est relancée, il y avait des voitures qui pouvaient passer, qu'il y avait personne pour les stopper. Donc, je comprends les deux parties, l'organisateur et les coureurs, mais à la fin, c'est toujours la sécurité qui doit primer. Donc, va falloir en rediscuter. et mettre les points sur les i.
Sentiment ambivalent en fait chez les coureurs. C'est le Belge Arnaud Delis qui s'est imposé et ils ne sont que deux de son équipe Lotto à être restés en course et il l'explique donc toujours au micro du diffuseur.
Il y a eu un petit dilemme, c'était si tout le monde t'arrête, comme l'étoile de Bessèges, j'aurais eu du mal à continuer. La sécurité est très importante. Et voilà, je pense que s'il n'y a pas de course, on ne sait pas aussi exercer notre métier. Ça, on peut mettre la clé sur la porte et aller travailler dans le monde réel, entre guillemets. Je me suis même pas posé la question, c'était continuer. Voilà, on a respecté l'organisateur et c'est aussi pour ça que j'ai continué.
Ouais, les organisateurs, c'est un gros coup dur, évidemment, hein, pour eux, pour les organisateurs de l'étoile de Bessèges, course historique du calendrier français. Familial géré et encadré par des bénévoles. Romain Leroux, l'un des organisateurs responsables de la sécurité de la course, ne cachait pas chez nos confrères de la chaîne L'Équipe ses inquiétudes pour la suite.
On se pose beaucoup de questions sur l'avenir. Est-ce qu'on est encore en capacité à ce jour d'organiser des courses professionnelles sur des routes ouvertes avec seulement une bulle course gérée par la gendarmerie, contrairement aux grandes courses où la route est entièrement coupée. On se pose la question s'il est encore possible de le faire.
Inquiétude et aussi de l'amertume. Les 7 équipes qui se sont retirées sont des équipes du haut de classement World Tour, des équipes qui ne sont pas forcément en quête de points UCI pour le classement sur ce genre de course, des équipes aussi à l'exception de Decathlon AG2R qui sont étrangères. L'un des co-organisateurs de l'étoile de Bessèges, Patrick Hers.
Toutes les équipes leaders du World Tour ont bâché en fait, hein, pour être clair. Eux n'ont pas voulu prendre de risques et comme ils n'ont pas besoin de points et qu'ils savent ce qu'ils font, je ne sais pas dire que c'est presque une excuse, mais ça n'en est pas loin, quoi. Et par rapport à nos partenaires et autres, c'est pas très sympa. Après, ce qui m'inquiète beaucoup, c'est le comportement des équipes maintenant, des grosses équipes. Quand on voit qu'ils ont abandonné aussi au bout de 23 km à Majorque la semaine dernière, je pense qu'il y a un manque de respect des grosses écuries par rapport aux organisateurs aujourd'hui, quoi.
Ouais, et le sort semble s'acharner sur les organisateurs de l'étoile de Bessèges puisque le Gard a été placé en vigilance météo orange, un épisode Cévenol attendu avec des orages, de la pluie, peut-être même de la neige et donc possiblement des conditions dantesques aujourd'hui sur la route.
Merci beaucoup Julien Richard pour ce point très complet. On a tout compris, les tenants, les aboutissants, et c'est difficile, non pas de démêler le vrai du faux, mais de savoir à qui il faut en vouloir ce matin. Est-ce qu'il faut en vouloir aux organisateurs de ne pas assez protéger les coureurs, ou aux équipes de déserter ce genre de course, parce que c'est aussi comme ça que le cyclisme arrive à vivre. Vous allez pouvoir donner votre avis, les GG. Forcément, je me tourne vers toi, Marc, tu connais bien cette course, c'est ton sport. Quel est ton sentiment aujourd'hui, à qui tu en veux?
J'en veux à personne. Je pense qu'il faut faire très attention dans la situation que nous rencontrons sur Bessèges et qu'on peut rencontrer éventuellement sur d'autres épreuves. J'ai envie de dire, c'est la faute de personne et c'est la faute de tout le monde. L'organisateur fait son maximum pour sécuriser son épreuve. Il a surtout pas envie qu'il y ait d'incidents comme on l'a pu le voir sur ces derniers jours. Après, l'organisateur, il a des contraintes financières, notamment en ce qui concerne le coût des forces de l'ordre, parce que il faut savoir que pour avoir la présence de motards sur l'étoile de Bessèges ou sur toute compétition, l'organisateur paye. Les forces de police ne sont pas là gratuitement.
Et l'augmentation du prix des gendarmes a été de 2000% en 15 ans. C'est-à-dire, ouais, pour avoir un gendarme, ça te coûte 2000 fois plus cher qu'il y a 15 ans.
Alors, c'est vrai qu'il y a 15 ans, ça coûtait une somme assez dérisoire et symbolique. Néanmoins, il y a cet aspect des forces de l'ordre présentes et des bénévoles qui est toujours délicat à gérer. Il y a aussi, il faut le reconnaître, un petit mépris d'un certain nombre d'équipes et voire de coureurs par rapport aux organisations de course. La situation qu'on rencontre là, il y a 20 ans en arrière ou un peu plus qu'à l'époque où je courais, ne se serait jamais produite.
Pourquoi?
Tout simplement parce que même s'il y avait un incident, il y avait un respect de l'organisateur. On savait tous que ces organisateurs sont bénévoles et qu'on avait tous besoin de ces courses. Aujourd'hui, avec le World Tour, c'est moins évident pour bon nombre d'équipes ou de coureurs que de participer à beaucoup de courses dans l'année. Nous, à mon époque, on faisait 120-130 jours de course. Aujourd'hui, on est à 70 ou 80 jours de course. Et on le voit, les grands champions n'ont pas encore remis le dossard pour courir. Ils sont en stage d'entraînement, ils sont en altitude, ils se préparent dans des conditions particulières pour être compétitifs sur les grands événements. Donc le problème se situe aussi à ce niveau-là. Et puis le dernier point qui est un souci, à mon avis, aussi majeur, c'est le respect des automobilistes par rapport aux événements. On le voit tous les jours dans l'actualité, les refus d'obtempérer pullulent. Il y a des incidents ou des accidents parfois très graves entre les forces de l'ordre et les automobilistes qui prennent la fuite parce que soit ils n'ont pas d'assurance sur leur véhicule ou pour d'autres raisons.
Et des accidents qui impliquent des vélos et des voitures.
Exactement. Et là, on se retrouve dans une compétition où la voiture qui a été incriminée, pas hier, avant-hier, avait été stoppée à deux reprises par les forces de l'ordre. Et la voiture a quand même repris la route.
À contresens.
Il y a quand même aussi un problème d'éducation par rapport aux automobilistes. Moi, j'ai connu une époque où quand le gendarme passait, on respectait la décision du gendarme. Pour être en avant-course parfois avec ma voiture, moi, je me rends compte d'une chose. Les forces de l'ordre font leur boulot. Les bénévoles font leur boulot. Les signaleurs font leur boulot. Mais parfois, on voit le gendarme qui arrête à plusieurs reprises, à différents échelons du cheminement, arrête les voitures sur le bas-côté. La voiture se range sur le bas-côté. Souvent, le conducteur marque son mécontentement en disant « on me fait perdre du temps, moi je travaille, j'en ai rien à foutre du vélo ». Le gendarme a à peine disparu de l'horizon que parfois les voitures redémarrent. Et c'est dans cette situation-là que c'est le plus dangereux. Parce qu'ils redémarrent dans un espace qui est libéré, il n'y a pas de force de l'ordre, et il n'y a pas encore les coureurs qui arrivent. Donc on peut supposer ou penser que l'automobiliste va se dire « ils sont passés » ou « ils vont repasser un peu plus loin, ils sont beaucoup plus loin, j'en ai rien à cirer ». Et là, on se retrouve dans des situations comme on a connues hier et avant-hier, où dans l'espace qui sépare les échappés du peloton, il y a un temps de latence. Et ce temps de latence, il y a beaucoup de gens qui aujourd'hui ne le respectent plus. Alors c'est vrai qu'il y a besoin de signaleurs et qu'il y a besoin de sécuriser les épreuves. Moi, je pense qu'on va aller vers des courses en circuit. Là où des épreuves comme l'étoile de Bessèges faisaient beaucoup de ville à ville et terminaient par un petit circuit parfois, je pense qu'il va falloir passer à l'étape suivante, c'est-à-dire faire des circuits de 10-15 km et répéter les tours de circuit en les sécurisant au maximum. Moi, je suis quand même... Je tiens à marquer mon soutien auprès des organisateurs. Ces gens-là font vivre un sport professionnel qui a pignon sur rue quand on est dans les grands événements. Il y a de l'argent qui circule. Les équipes ont des beaux pullman. Les coureurs sont très bien payés aujourd'hui. Tant mieux. Il faut que ça continue dans ce sens-là. Mais il faut aussi avoir le respect des petits organisateurs. Parce que ces gens-là ne sont pas obligés de faire une course de vélo. Ils ont pas, c'est pas leur métier. C'est juste leur passion.
Ils n'ont rien à gagner.
Ils n'ont rien à gagner. Financièrement. Ils essaient de mettre en valeur leur village. Ils essaient de mettre en valeur leurs épreuves et leur région et leur département. Donc ça se respecte aussi. Ça se respecte aussi. J'entends et je comprends le souci de sécurité des coureurs. Je l'entends, je le comprends. J'ai été coureur et j'ai aussi mon équipe qui court. Et j'ai de l'appréhension parfois par rapport aux situations.
Tu serais parti là ?
Moi, j'aurais laissé le choix. C'est ce qu'on a fait d'ailleurs chez nous. On a laissé le choix aux coureurs de décider. Il y a un moment aussi où c'est l'engagement des uns et des autres. Moi, je peux dire aux gars, ce serait mieux de continuer. C'est ce que j'aurais sans doute fait. Mais in fine, si j'ai un coureur qui me dit « Je ne me sens pas en sécurité, je ne veux pas continuer », il a le droit d'abandonner. Chacun est responsable de son propre cheminement. Et moi, si un coureur me dit « j'abandonne », il abandonne. Je ne vais pas l'incriminer parce qu'il abandonne. Et il refera la course le week-end d'après. C'est aussi un engagement personnel. C'est un peu facile, parfois, de prendre la décision, quand on est un grand manager d'équipe, de dire « on s'en va de cette course ». Je ne suis pas d'accord.
C'est ce qui s'est passé avec Soudal, par exemple. Jeune coureur dont je voulais vous parler tout à l'heure, Paul Magnier, était leader du classement général, mais les DS de Soudal ont décidé de retirer toute l'équipe. Ouais, et c'est ce qui ne s'est pas passé chez Lotto. Et on écoutait tout à l'heure Delis qui a dit, moi, avec un autre équipier, on a décidé de rester dans la course. Delis a remporté l'étape, il est maillot jaune, et en plus, il a eu des paroles, je trouve, très justes envers les organisateurs. Il dit... s'il n'y a plus d'organisateur, il n'y a plus de course. Et s'il n'y a plus de course, nous, on ne pourra plus faire notre métier. Donc à un moment donné, si tu te retires comme ça sans penser aux conséquences, demain, tu n'auras peut-être plus de course et plus de petites courses. Il n'y aura plus que les grosses courses. Et il y aura donc un peloton beaucoup plus restreint.
Vous savez quoi, les copains ? On va poursuivre le débat parce que c'est extrêmement intéressant. Et l'organisatrice de l'étoile de Bessèges nous écoute et sera avec nous dans quelques instants en direct. À tout de suite sur RMC, on poursuit le débat sur cette histoire et ce feuilleton en fin de semaine sur l'étoile de Bessèges. A tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport en direct du salon Rétromobile.
Jean-Christophe Drouet.
11h46, toujours avec Christophe Cessieux, Fred Weiss, Julien Beneteau et Marc Madio. Nous restons évidemment sur cette histoire sur l'étoile de Bessèges où cette équipe ont décidé de claquer la porte et de partir durant la troisième étape après des failles dans la sécurité. Vous avez entendu longuement Marc Madio il y a quelques instants. L'organisatrice Claudine Frangil nous fait le plaisir d'être avec nous quelques minutes. Bonjour Claudine.
Bonjour.
Vous avez pu entendre Marc Madieu il y a quelques instants, qui défend évidemment votre institution, ces institutions qui ont peu de moyens en regard de, du Tour de France, de Paris-Nice, pour parler de, des célèbres courses en France. Aujourd'hui, oui, ce matin, avec ces équipes qui ont décidé de partir, est-ce que vous êtes en colère après ces équipes?
Alors non, je ne suis pas en colère. Je remercie surtout les équipes qui sont là. Parce que j'ai entendu les paroles de Marc et je le remercie pour ce qu'il a dit. Parce qu'effectivement, on n'est que, on va dire, des petits organisateurs bénévoles. On n'a pas les moyens d'ASO. Je n'aurai jamais les moyens de privatiser la route comme le fait ASO. Le dispositif qui est sur l'étoile cette année est le même depuis X années. La bulle de gendarmes et la bulle qui était là l'année dernière, c'est pas des novices. Ça fait 5 ans qu'on a des rapports ouverts. Oui, cette année, je veux dire que les galères s'enchaînent. Hier soir, j'étais fatiguée à dire l'étoile c'est terminé. Et je pense que si ces équipes françaises, en dehors d'AG2R et la nouvelle équipe française qui n'est pas repartie, n'était pas là ce matin, eh bien, l'étoile de Bessage ne serait pas là l'année prochaine, même si elle n'est pas sûre encore d'être là. Mais la différence, c'est que nous, on dit à nous, organisateurs, qu'on doit être solidaires et de prendre toutes les équipes françaises. Et je pense qu'il y a 2 équipes françaises qui n'ont pas été solidaires de nous hier. Et si jamais l'étoile doit repartir l'année prochaine, eh bien, elle repartira sans les équipes-là. C'est les équipes qui sont là ce matin au départ, qui seront là au départ de la prochaine édition si elles doivent avoir lieu.
Ok, donc vous n'êtes pas en colère après ces équipes, mais vous dites tout de même, notamment aux équipes françaises, vous avez voulu déserter cette année, donc pas question que vous soyez présent à l'étoile de Bessèges la saison prochaine. Autre question, est-ce que ces failles dans la sécurité, c'est un épiphénomène et ça aurait pu arriver les autres années, ou particulièrement, comme le disait Marc tout à l'heure, vous avez senti que les automobilistes ne respectent plus rien et ne respectent plus les courses?
Ah non, mais c'est exactement ça, parce que je veux dire, on a le même, je ressors le rapport UCI de l'année dernière, il est bien indiqué dessus qu'on met la sécurité en avant. Donc je me dis à la sortie ce qui s'est passé cette année, ça aurait pu peut-être se passer les autres années, vu que là, la première voiture jeudi, elle est arrêtée 2 fois, les gendarmes l'arrêtent 2 fois, elle redémarre. Donc comment on fait à un moment donné, oui, à part privatiser la route et dire il n'y a plus du tout, voilà, nous petits organisateurs, on n'aura pas les moyens de privatiser la route comme ASO en fait.
Restez encore quelques instants avec nous, Claudine. C'est vrai que quelqu'un de l'organisation disait hier, si Vincent Lavenu était encore à la tête d'AG2R, l'équipe ne se serait jamais retirée. Est-ce que tu as bon dans ce sens, Marc?
Moi, je ne vais pas réagir à la place des dirigeants d'AG2R. Tout ce que je peux vous dire, c'est que Vincent Lavenu avait et a toujours le côté patrimoine chevillé au corps. Ça, j'en suis sûr. Après, je ne vais pas parler à la place des dirigeants d'AG2R. Décathlon. Moi, je voudrais quand même, comme j'ai la parole, remettre en évidence quelques situations. Imaginons, le chaos va jusqu'au bout, les petites épreuves françaises disparaissent. Là, aujourd'hui, c'est Bessèges, la semaine prochaine, c'est le Tour de la Provence, etc., etc., tout au long de la saison. Si toutes ces courses disparaissent, il va rester Paris-Nice, le Dauphiné, le Tour de France, Paris-Roubaix et Paris-Tours, c'est-à-dire les 5 épreuves organisées par ASO. Le reste va disparaître. Ça veut dire des centaines de personnes qui vont aller au chômage. Est-ce qu'on a envie d'un cyclisme qui reste traditionnel, avec des petites courses qui permettent au public d'accéder à des champions comme on le fait sur Bessèges? Ou est-ce qu'on veut que toutes les courses aient lieu dans les Émirats?
Très bien, Marc, mais les coureurs te diront, moi j'ai pas envie de mettre ma vie en danger.
Personne ne veut mettre sa vie en danger.
Alors tu changeras de métier, parce qu'il y aura plus de courses pour avoir des teams aussi importants qu'aujourd'hui. Et tu auras que quelques teams, les meilleurs. Si tu es un coureur cycliste moyen, et ben tu n'auras plus les moyens d'entrer dans une équipe moyenne, parce qu'il y aura plus de courses à disputer.
Est-ce que
après? Oui, vas-y.
Non, mais je voulais savoir, parce que effectivement, je me mets à la place des organisateurs et de vous, madame. Mais est-ce que vous avez moyen, par exemple, de vous retourner contre ces automobilistes, ou notamment cet automobiliste-là qui a été arrêté deux fois avec un coup de sonde, et de porter plainte, et que cet automobiliste en rende des comptes devant la justice, parce qu'il met à mal la sécurité des coureurs, l'organisation.
Oui, mais Julien, ça crée un précédent. C'est ça le problème.
Bah, tu peux.
Il faut créer des précédents. Oui, il faut que les gendarmes aient plus de pouvoir pour arrêter les automobilistes.
Oui, mais par rapport à la peur des coureurs, je veux dire, les coureurs ont eu peur maintenant. Et c'est trop facile de dire.
Claudine Fangine, justement, l'organisatrice, est-ce que vous avez réfléchi? Est-ce que vous voulez intenter une action en justice contre ces automobilistes?
De toute façon, le problème, c'est que à l'heure actuelle, les retrouver, on les retrouvera pas. Parce qu'il aurait fallu que ce soit sur le moment. Et sur le moment, on n'a pas eu le fait de dire.
Avec les caméras, tout à fait.
Oui, effectivement. Franchement, je vais vous dire, là, sur le coup, on n'y a pas pensé. On enchaîne les galères les unes après les autres, c'est le cas de le dire. Moi, papa, 15 jours avant son décès, me disait, Claudine, tu sais, ça devient compliqué. Hier, toute la journée, j'ai pensé à ses paroles, en fait. Parce que, voilà, je me suis dit, quand il m'a dit, Claudine, ça devient trop compliqué à organiser, il y a 5 ans à l'arrière, il s'en était déjà rendu compte, en fait.
On sent votre émotion, ouais, hein, c'est votre papa qui a créé cette course et vous avez repris le flambeau.
Qu'est-ce qui est le plus dur aujourd'hui quand on est organisé autour de course? Qu'est-ce qui vous coûte le plus cher? Je parlais tout à l'heure de l'augmentation des prix de la gendarmerie. Qu'est-ce qui coûte le plus cher? C'est la sécurité, c'est aménagements urbains qui pourrissent la vie des organisateurs, qui vous empêchent d'aller là où vous voulez. Qu'est-ce qui aujourd'hui vous crée le plus de problèmes?
C'est un tout, effectivement. La gendarmerie, ça représente une partie importante de notre budget, hein, puisque nous, sur l'épreuve, on est à environ 50 000 euros au niveau de la gendarmerie. Mais après, effectivement, les aménagements urbains font maintenant que c'est pas facile parce que de par toutes les communes où on passe. Parce que oui, les premiers jours, on pourrait me dire pourquoi tu vas sur Nîmes Métropole, pourquoi tu vas sur Bellegarde qui a de la circulation. Sauf que si on va dans ces communes-là, c'est parce qu'on doit trouver un budget. Et c'est les communes-là qui nous permettent de trouver le budget. Parce que c'est pas Bessèges qui va mettre les 100 000 euros ou autre. Il faut qu'on arrive à trouver le budget. Et si on va pas dans les grosses agglomérations, oui, il y a plus de circulation, oui, il y a plus d'aménagement urbain, on ne peut pas boucler le budget. Moi, quand je vois qu'il y a des courses qui disent on est en sursis par rapport au budget, il y a au mois de novembre, je me suis posé la question de savoir si on allait pouvoir partir. Parce que pareil, le budget était pas en équilibre. Donc oui, on a réussi à trouver et faire en sorte en faisant les bénévoles, parce que c'est les bénévoles qui sont allés chercher 1500 euros à un endroit, 1500 euros à un autre, pour qu'on arrive à dire oui, on part et on fait encore cette 55e édition. Mais le problème, c'est que maintenant, au niveau de la sécurité, moi, quand je vois que hier, Coustep, à 16h, ils avaient déjà quitté l'hôtel, on ne va pas me dire qu'ils n'avaient pas anticipé le fait que, oui, cette année, ce n'est pas beau sur l'étoile. Donc, est-ce qu'ils n'avaient pas déjà prévu de dire, vu que demain, ils annoncent... Peut-être que si aujourd'hui, ils avaient annoncé beau, peut-être qu'hier, ils ne se seraient pas retirés.
Ah oui. Okay, le phénomène Cévenol, à mon avis, ça les a refroidis un peu.
Servi de ça comme excuse. Claudine Fangine...
Je ne sais pas, parce qu'on n'est pas... Je veux dire, c'est tout des hypothèses qu'on fait, parce que voilà, maintenant... Mais c'est vrai que encore aujourd'hui, je remercie les équipes qui sont là au départ. On a fait une réunion ce matin. Je les ai remerciées, mais certaines équipes nous ont remerciées aussi en nous disant vous nous remerciez, mais nous on vous remercie aussi d'être là parce que si vous n'étiez pas là, on n'éclaircerait pas notre métier. Et donc, oui.
Merci Claudine Fangile d'avoir été avec nous. On a entendu votre émotion quand vous avez parlé de votre papa, évidemment, décédé il y a 5 ans. C'était en 2020, Roland Fangile qui avait créé cette course qui date de 1971, une institution à l'étoile de Bessèges qui va peut-être disparaître, c'est ce que nous dit Claudine. En tout cas, est-ce qu'on peut continuer encore dans ces conditions? En tout cas, on vous souhaite beaucoup de courage. On sait que c'est difficile pour vous. Je sais qu'hier, vous avez appris un bel événement parce que vous êtes devenue grand-mère. Donc félicitations. Oui, oui. Mais bon, voilà, vous, dans la vie personnelle, ça s'est bien passé. Dans la vie professionnelle, ça a été un peu compliqué.
Mais je pense que si on doit faire, on fera différemment en se posant les bonnes questions. Ben oui, on va peut-être partir que la prochaine année, on partira peut-être qu'à 16 ou 17 équipes, mais avec les équipes qui sont là aujourd'hui.
Et qui ont vraiment envie de venir, si on a bien compris ce message fort. On vous souhaite en tout cas un bon week-end et que l'étoile de Bessèges se passe correctement, sans heure évidemment, ce week-end. Merci d'avoir été avec nous. Merci Christophe Cessieux, Fred Weiss, Marc Madiot et Julien Beneteau. Merci. On se retrouve demain pour les Grandes Gueules du Sport à partir de 9h. C'était très plaisant de vous avoir ici en direct du salon à Rétromobile. Beaucoup de personnes, hein, vous allez pouvoir aller signer des autographes tranquillement et prendre quelques selfies. C'est comme ça qu'on fait aujourd'hui. Et Christophe, on se retrouve Christophe à 17h pour le Crunch Angleterre-France évidemment.
Pour l'exploit. Cruncher, là.
Pour l'exploit. Bah, va cruncher. Il pense qu'à bouffer.
Ouais.
Allez, on se retrouve dans quelques instants pour les paris RMC, justement autour du crunch. À tout de suite.